Chapitre 11. Ce chapitre s'ouvre sur le trouble suscité à Jérusalem par les événements qui venaient de se produire à Césarée. Ceux qui étaient encore fortement marqués par le judaïsme reprochent à Pierre ce qu'il a fait. Pierre est alors amené à reprendre le sujet depuis le début et à le leur exposer par ordre afin que tous puissent voir que la chose était distinctement de Dieu. Il est remarquable que l'Esprit de Dieu ait jugé bon de nous laisser le récit fait par Pierre, outre celui que nous a donné Luc, comme historien dans le chapitre précédent. Cela souligne l'importance de ce qui s'est passé si discrètement dans la maison du centurion romain. C'est un événement qui, certes, a fait époque. Le récit de Pierre nous donne naturellement son côté de l'histoire plutôt que celui de Corneille. Cependant, il ajoute un détail concernant le message de l'ange à Corneille, qui n'est pas mentionné dans le chapitre précédent. Pierre devait lui dire des choses par lesquelles il serait sauvé, lui et toute sa maison. La loi demande des œuvres à l'homme. L'Évangile apporte des paroles à l'homme, qui, si elles sont reçues, le conduisent au salut. Relevons également que Corneille et ses amis ne sont pas sauvés avant d'avoir entendu l'Évangile et de l'avoir cru. Et pourtant, sans aucun doute, il y avait eu dans leur cœur un travail de Dieu qui les avait amenés à le rechercher. Les versets 15 et 16 nous montrent que, dans le don de l'Esprit à Corneille, Pierre reconnaît un baptême de l'Esprit supplémentaire à celui qui avait eu lieu à Jérusalem au commencement. Dieu faisait à l'égard des croyants d'entre les gentils ce qu'il avait fait précédemment pour ceux d'entre les Juifs. Il les plaçait les deux sur le même pied. Et qui était Pierre, ou qui que ce soit d'autre, pour résister à Dieu? Le récit clair et direct de Pierre fait taire toute opposition. En fait, la grâce a opéré dans le cœur des opposants, et ils sont amenés non seulement à reconnaître que Dieu a donné aux nations la repentance pour la vie, mais aussi à glorifier Dieu de ce qu'il a fait. Ils considèrent la repentance comme un don de Dieu, tout comme la foi l'est en Éphésiens 2, verset 8. Avec le verset 19, nous quittons Pierre et reprenons le fil du récit au verset 1 du chapitre 8. Dans l'intervalle, nous avons eu le travail évangélique de Philippe, la conversion de Saul qui va être l'apôtre des gentils, et les activités de Pierre culminant dans l'ouverture formelle de la porte de la foi aux gentils. Nous apprenons maintenant que les croyants dispersés par la persécution connaissaient l'Évangile, mais n'annonçaient la parole qu'à des Juifs, tandis que certains d'entre eux, qui étaient des Cypriotes et des Cyrénéens, lorsqu'ils arrivent à Antioche, se mettent à prêcher aux Grecs, présentant Jésus comme le Seigneur, car effectivement, il est Seigneur de tous. Ainsi, ces hommes commencent à évangéliser les gentils, et c'est bien l'œuvre spécifique que le Saint-Esprit avait maintenant en vue. Les résultats sont remarquables. La main du Seigneur est avec ces hommes qui pourtant étaient des gens du commun, et une grande multitude crut et se tourna vers le Seigneur. C'est ainsi que fut constituée la première Assemblée des Nations. L'œuvre prend rapidement une extension telle que l'Assemblée à Jérusalem en a connaissance et qu'elle envoie Barnabas les visiter. Arrivé à Antioche, Barnabas discerne tout de suite une véritable œuvre de la grâce de Dieu. Loin d'être jaloux que Dieu se soit servi d'autre que de lui-même ou des conducteurs à Jérusalem pour cela, il s'en réjouit et, par des exhortations, consolide le travail. Étant un homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi, il ne se préoccupe pas de sa propre réputation, mais n'a devant lui que la gloire de Christ. De même qu'ils avaient commencé par la foi dans le Seigneur, il les exhorte maintenant à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Pour Barnabas, seul compte l'œuvre de la grâce de Dieu, indépendamment de l'instrument employé. Ah, si seulement l'esprit de Barnabas avait pu marquer toute l'histoire de l'Église. Cet homme de bien, Barnabas, est encore caractérisé par un autre trait. Il est manifestement conscient de ses propres limites. Il sent qu'un autre que lui-même doit être l'instrument spécialement employé pour instruire ses croyants d'entre les gentils. Et ainsi, il va chercher Saul. Il semble que Barnabas exhortait et que Saul enseignait. Il se livre à ce travail pendant toute une année. Et il est bien significatif que ce soit à Antioche que le nom chrétien ait été employé pour la première fois. Remarquons la place qui est donnée à la Seigneurie de Christ dans ce récit de l'œuvre à Antioche, et dans ce lieu où Christ est reconnu d'un cœur vrai et d'une manière conséquente comme Seigneur, les croyants ont une conduite qui amène les observateurs à les appeler chrétiens. Nous verrons au chapitre 26 que ce nom était connu d'Agrippa. 1 Pierre 4, verset 16 nous montre que l'Esprit Saint accepte cette appellation. À la fin de ce chapitre, nous voyons la liberté avec laquelle les serviteurs de Dieu, tels les prophètes, se déplaçaient dans les différentes assemblées. Les dons dispensés dans l'Église doivent être employés d'une manière universelle et non pas simplement locale. C'est ainsi que, par Agabus, un prophète de Jérusalem, l'assemblée à Antioche fut avertie qu'une famine allait avoir lieu et qu'elle put prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins que connaîtraient les saints en Judée. Les croyants d'entre les gentils eurent ainsi de bonne heure l'occasion de manifester leur amour à l'égard de leurs frères d'entre les Juifs.